Vous êtes toujours sur IDFM Radio. Eh bien, c'est le retour de l'émission Toute la culture que j'aime. Au programme de cette émission, de la photographie avec l'exposition qui se tient actuellement à la Maison européenne de la photo American Image. C'est une exposition de la photographe Dana Lixenberg jusqu'au 24 mai. Ensuite, nous irons au théâtre pour parler des amours de Pablo. Eh oui, Pablo Picasso, c'est au studio Héberto. Nous recevrons la comédienne et ensuite il y aura mes coups de cœur. Avant de parler de l'exposition de photos, nous écoutons tout de suite Iggy Pop, China Girl.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Nous venons d'entendre China Girl, hein, d'Iggy Pop. Ça tombe bien parce que justement, je vais interroger Laurie Hurwitz. Bonsoir.
Bonsoir.
Ouais, vous êtes co-commissaire de l'exposition de photographie de Dana Lixenberg, cette photographe hollandaise qui a vécu aux États-Unis, très très reconnue. Hein, et donc son exposition s'appelle American Image. C'est jusqu'au 24 mai à Paris. Cette exposition retrace plus de 30 ans du travail de cette photographe. Et Laurie Hurwitz, vous êtes donc co-commissaire, vous allez nous en parler. Donc juste un mot hein, sur Dana Lixenberg. Alors à partir des années 90, elle a photographié des figures reconnues dans le monde artistique ou politique, des célébrités allant de Whitney Houston, Kate Moss, Iggy Pop, justement, George Clooney, Leonard Cohen et j'en passe. Elle est donc très connue pour son travail en chambre photographique. Vous nous expliquerez après. Et on lui doit également des projets comme Imperial Courts à Los Angeles, dans un quartier sud défavorisé dans les années 90, ou encore Heaven House, un foyer d'accueil dans le Kentucky. On lui doit donc des photos iconiques. Je pense à celle des rappeurs américains, Tupac Shakur, Biggie Smalls, et ses collaborations bien sûr avec le fameux magazine Vibe lancé par Quincy Jones. Alors, Laurie Hurwitz, est-ce la première rétrospective des photographies de Dana Lixenberg?
Oui, justement, merci pour votre introduction. Et oui, c'est la toute première fois qu'on réunit des séries différentes de Dana Lixenberg réalisées aux États-Unis à partir du début des années 90 et jusqu'à récemment. Elle a l'habitude plutôt de montrer les séries individuellement et de réaliser des livres ou des catalogues sur les séries individuelles. Donc c'est une première, effectivement.
Oui, je le disais tout à l'heure, elle s'est fait connaître pour ses photos de célébrités, de stars, ou ses projets plus personnels. D'après vous, qu'est-ce qui l'a rendu célèbre?
Bah, déjà, vous avez évoqué la photographie de Tupac Shakur qui est devenue icône et celle de Biggie également. Elle est très connue aux Pays-Bas et aux États-Unis pour ses photographies, que ça soit pour le New York Times, Newsweek, Rolling Stone, le New Yorker et d'autres, et Vibe, bien évidemment. Mais je pense que la beauté de cette exposition, le plaisir de l'exposition, est que en réunissant ces photographies, et pour les commandes éditoriales et les projets personnels, où elle va se pencher souvent vers des communautés dans une certaine précarité, et de vraiment refléter la diversité de la société et de la culture aux États-Unis à ce moment-là, et de révéler quelque chose qui va être l'humanité et la vulnérabilité de chacun. C'est vraiment un portrait d'un pays et un portrait d'une époque.
Est-ce qu'on peut dire que sa particularité est de justement ne pas faire de différence entre une célébrité et une personne plus en marge? Est-ce qu'on peut dire c'est comme si elle mettait un peu elle fait beaucoup de portraits, hein?
Oui, elle fait principalement des portraits et vous le dites extrêmement bien. Elle refuse, si je peux le dire comme ça, toute hiérarchie, des individus ordinaires, pas connus, et des célébrités sont vraiment traitées avec le même intérêt, avec la même sensibilité, sont mis sur un même plan. Donc chacun apparaît avec dignité et avec singularité. C'est vraiment au cœur cette rencontre humaine du travail de Dana Lixenberg.
Oui, c'est ce que vous venez de dire. Chacun apparaît en effet avec une humanité. Quand elle a été, par exemple, prendre toutes ces photos, tous ces portraits dans le Midwest, dans le Kentucky à Heaven House,
oui,
de personnes dans la précarité, bien souvent sans abri, je pense qu'elle les a même photographiées en dehors.
Oui, tout à fait. Donc déjà, c'est intéressant avec Dana Lixenberg. Elle ne souhaite pas, dans les légendes de photos, expliquer le statut, de définir une personne à part un nom et une date. Et c'est vrai qu'elle était demandée par un magazine qui s'appelait Jane de photographier les résidents de ce foyer temporaire d'accueil dans une petite ville proche de la frontière du Kentucky. Et elle a été tout de suite frappée par la diversité de ces personnes qu'elle rencontrait, qu'elle trouvait loin de stéréotypes qu'on peut associer aux gens sans abri. Donc elle a choisi effectivement de ne pas les photographier à l'intérieur, mais de faire une chose inattendue, de les inscrire dans le paysage autour. Et justement, je profite pour dire que c'est un très bon exemple de l'approche de Dana, parce que elle s'est très vite liée d'amitié avec la directrice du lieu, et elle a décidé elle-même, suite à cette commande, d'y aller pendant 7 années, passant quelques semaines à photographier de nouvelles personnes qui se trouvaient dans ce foyer, et pour elle, c'était une façon discrète de parler du sans-abri à l'échelle locale, mais aussi dans l'ensemble du pays.
Oui, c'est... D'ailleurs, alors vous parlez de cette exposition Even House. C'est,
oui.
C'est, est-ce que c'est là où on voit la photo de Shaun et son fils?
Oui.
C'est ça, hein, Shaun, ce qui est marquante.
Oui, c'est Jeffersonville, Indiana, et le titre de la
oui,
série, effectivement.
C'est ça. Alors, comment se passe l'exposition? Il y a plusieurs parties, hein, puisque son travail est immense et multiple hein, depuis les
Tout
années 93.
Oui, pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu la fin de votre
quelle
question.
Quelle est l'organisation de l'exposition? Quelle partie de son travail peut-on voir?
Nous voyons donc au début de l'exposition une sélection de photographies réalisées pour les commandes éditoriales, et tout de suite après, on commence à aller donc dans cette série réalisée dans l'Indiana dont on vient de parler, ainsi que une série réalisée à Alaska, The Last Days of Shishmaref, de 2007, où elle va se rendre dans un petit village de 600 personnes, une communauté justement dans une vraie précarité, parce que c'est considéré comme les premières victimes du changement climatique.
En Alaska,
sont,
hein, sur une île.
Ils sont, absolument. Ils sont confrontés à l'érosion de la côte et donc elle s'est intéressée aux traditions ancestrales qui sont en train de se perdre, et cette communauté qui se trouve un peu dans les limbes en attendant peut-être être replacée ailleurs parce que c'est une communauté quand même qui dépend beaucoup de leur terre, qui est très sensible au changement de saison. Et qui donc est vraiment mise en danger grâce à cause de l'érosion physique de l'île. Et ils sont donc dans une lutte aussi d'essayer de préserver leur culture.
Et ça, c'était donc en 2007.
Oui, tout à fait.
Lorsqu'elle a filmé sur cette petite île d'Alaska. Est-ce que c'était les premières victimes finalement du dérèglement climatique, des changements climatiques?
Oui, c'était un peu considéré comme ça, et c'est l'anecdote est qu'en fait elle était introduite à ce projet par un réalisateur néerlandais, un cinéaste qui voulait faire un projet parce qu'il avait lu un article dans le journal Libération sur ce village, et qui le présentait effectivement comme c'était vraiment le début de notre conscience du changement climatique, et c'était présenté comme ça. Donc c'est comme ça, c'est pour cette raison qu'il a décidé de faire un tournage sur place, et elle a accompagné, elle a fait des photos.
Oui, là c'était vraiment un travail documentaire plus centré sur la famille
oui,
et les paysages.
Oui, pour elle c'est un peu plus un travail documentaire, un peu cinématographique même, que d'autres photographies qu'on voit dans l'expo, qui sont principalement des portraits. Ensuite, nous montrons aussi une salle avec un diaporama et beaucoup de Polaroid. C'est un film instantané qui permettait de visualiser immédiatement le résultat d'une image, puisque comme elle travaille avec la chambre 4-5, ces choses qu'on n'a pas évoquées ou que vous avez rapidement évoquées, c'est aussi le rigueur et la lenteur de ce processus qui est très important pour Dana. C'est ce qu'elle appelle une danse lente avec la personne en face d'elle. Et même si ça se passe dans le silence, elle considère que c'est un vrai dialogue avec la personne où tous ses sens sont ouverts et qu'elle est très, très à l'écoute de la personne, et elle attend que cette personne arrête en quelque sorte de faire une performance et que montre quelque chose peut-être de plus fragile et de plus vrai et de authentique, ce qui était beaucoup le cas dans les photos de célébrités qu'on voit au début de l'exposition. En tout cas, elle faisait des Polaroids comme essai, et pour créer une espèce de confiance, elle offrait souvent quelques Polaroids à la personne à son sujet. Et on voit une installation avec plusieurs centaines de ces Polaroids dans l'exposition. Et enfin, la moitié de l'exposition, tout un étage, est consacrée à Imperial Courts, que vous avez mentionné. C'est à la fois son premier projet, commencé en 93 et ça continue aujourd'hui. Donc c'est ça son projet le plus récent et c'est surtout son projet le plus proche de son cœur. C'est le projet le plus important. C'est dans une communauté à côté de Los Angeles, dans le sud de Los Angeles. Peut-être que vous souhaitez poser une question, mais
on va faire une pause
oui,
musicale et on reparle tout de suite de l'exposition American Image à la Maison européenne de la photographie, photo de Dana Lixenberg. On écoute David Bowie, Space Oddity.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
8, 7.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition
1.
And may God's love
lift
be
off.
With you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Ground control to Major Tom, you're searching.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Nous venons d'entendre David Bowie, Space Oddity. Vous êtes toujours là, Laurie?
Oui, Laurie, je suis là, bien sûr.
Madame Hurwitz, co-commissaire de l'exposition actuellement à la Maison européenne de la photographie, photographie de Dana Lixenberg. Alors, ce magnifique projet de photo Imperial Courts dans les années 90 au sud de Los Angeles, dans des quartiers très défavorisés suite aux émeutes à Los Angeles de 92. Vous nous en parlez un peu. Comment a-t-elle fait déjà pour s'installer? Parce qu'elle s'est, ça fait 20 temps, même plus, enfin, qu'elle retourne là-bas régulièrement. Comment a-t-elle fait au début? Parce que je crois qu'elle n'a pas été acceptée, bien évidemment.
Oui, vous avez entièrement raison, à nouveau. En fait, Dana était en 92 envoyée à Los Angeles suite aux émeutes après l'affaire Rodney King. Donc, c'est un automobiliste noir qui est frappé très violemment par 4 policiers blancs. Et c'était filmé, et malgré tout ça, ils ont été relâchés, ce qui a donné quand même à beaucoup de colère et de violence. Et on lui a demandé d'aller filmer un peu la destruction et la reconstruction de cette partie du pays. Elle a tout de suite été très impressionnée par cette rage, mais également sur la façon dont la couverture médiatique se concentrer sur des stéréotypes, sur la violence de ces membres de gang, et elle ne savait même pas pourquoi et comment, mais elle avait très envie de photographier ces membres de gang d'une autre manière, justement dans la manière dont on a parlé, pour montrer un côté beaucoup plus humain et beaucoup plus complexe dans toute dignité de ces personnes. Mais elle a dû être très persistante, elle a passé plusieurs entretiens avec un ancien chef des gangs là-bas qui refusait, et on peut bien comprendre, qui se méfiait d'une femme étrangère blanche qui voulait venir photographier les personnes. Mais à la fin, ils ont accepté sa présence. Elle a pris son appareil. C'était la première fois qu'elle travaillait avec la chambre. Et elle a passé un mois tous les jours, en commençant à midi, dans l'heure du jeu, à parler avec les résidents, à essayer d'établir du contact, et à faisant des essais, à justement donner des Polaroids en discutant. Et elle s'est vraiment liée très fortement avec des personnes dans la communauté. Elle continuait à aller les visiter, et après plusieurs années, elle a décidé de ramener à nouveau son appareil, et depuis ce temps, elle retourne une fois ou plusieurs fois dans l'année. Elle est là actuellement, aujourd'hui.
À Los Angeles.
À faire des nouvelles photographies et voir ses amis là-bas.
Et vous disiez, ce sont surtout des portraits. Hein.
C'est des portraits en noir et blanc.
Frappant, oui.
Sont vraiment très majestueux. C'est en fait les portraits réalisés à Imperial Courts, qui était vu par Quincy Jones et son équipe chez Vibe, et qu'ils ont tout de suite publié un portfolio et qui ont donné la commande pour la photographie de Tupac Shakur, qui a un peu lancé sa carrière.
Oui, on rappelle qui est Tupac Shakur, un rappeur américain décédé à 26 ans en 95,
absolument.
Enfin dans les années 95.
Donc elle montre justement dans le portrait un côté très un peu philosophe comme ça, poète, très méditative, presque féminin, avec sa grande beauté, avec des yeux qui vous suivent. On voit vraiment la puissance de Dana à réaliser des portraits extraordinaires et faire une connexion, établir une connexion avec son sujet.
Ouais,
en tout cas, on continue avec Imperial Court. Il y a également une grande installation vidéo de 3 canaux qu'elle a réalisée là-bas. Et on montre aussi un grand livre qu'elle a fait sur le projet. Et surtout, on voit comment ce projet s'est complexifié avec le temps, avec sa connaissance des habitants. Elle a commencé à connaître des familles et des liens entre les gens. C'est un endroit où il y a beaucoup de drogue, il y a beaucoup de prisons. La vie est très dure, mais elle trouve aussi beaucoup d'amour, beaucoup vraiment une vie très vibrante et continuer à montrer de manière extrêmement émouvante, je trouve, comment les gens, on les voit vieillir dans les photos et comme elle dit, elle se voyait aussi vieillir à côté d'eux et que c'est vraiment une espèce de méditation sur le temps qui passe.
Un peu comme une, oui, comme une marraine, un peu. Quel âge a-t-elle, Dana Lixenberg?
Elle a 61 ans.
Ah, mon 60... âge.
Oui, voilà.
Voilà, très bien. Oui, toute donc, jeune. Alors, donc, c'est à la Maison européenne de la photo jusqu'au 24 mai. C'est ouvert du lundi, du mercredi.
Hein, du mercredi au dimanche.
Au dimanche, tout à fait. Je crois que demain, hein, demain samedi, il y a un film, une projection à 17h. Donc, on va demander à nos auditeurs. Je crois que c'est un film, hein, à la Maison européenne de la photo. On va
demander. C'est le documentaire sur Dana Lixenberg, il me semble.
Oui, c'est ça. Donc, nos auditeurs peuvent
de toute
façon.
C'est un très beau film.
C'est magnifique.
Qui dans le titre, est Through Dutch Eyes, qui montre comment même les Américains disent qu'ils ont réalisé à travers les yeux néerlandais de Dana qu'ils ont mieux compris leur propre vie à eux.
Très bien. Et peut-on, pour conclure, peut-on regarder la vidéo de 69 minutes d'ailleurs sur Imperial Courts?
Oui, c'est justement l'installation de trois canaux dont je parlais.
C'est donc, ça qui est dans.
C'est à alors, la fin de l'exposition, comme un crescendo à la fin, on voit ces vies en 3D, en couleur. C'est très touchant.
Pourquoi cette expression, ce titre Imperial Court, c'est le titre d'un quartier, d'un
oui,
immeuble.
Oui, tout à fait. C'est juste tout simplement le nom de la cité.
Exactement. De la cité au sud de Los Angeles. Merci beaucoup.
Merci à
beaucoup,
vous,
Laurie Hurwitz.
Merci à vous.
On écoute tout de suite. Allez, Céline Dion. Regarde-moi.
Une machine à fond de train, une locomotive qui foncerait sans fin. Des coups, des secousses, je ne m'habitue pas. Qui conduit, qui pousse ce train, qui sait où il va. Oh, j'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur. Faut qu'on l'arrête, appelez-moi le contrôleur. Je veux qu'on m'explique, je veux quelqu'un. En cas de panique, c'est écrit là, oh, 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 pour tirer sur le frein à main. Toi, qu'est-ce que tu fous là?
Toi, qu'est-ce que tu fous là?
Sur ton sofa.
Yeah.
You want the star, or you want the food, you want.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Tu me dis si je parle trop fort. Hein. Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Nous venons d'entendre Regarde-moi de Céline Dion. Et oui, Céline Dion qui fait son retour. Mais tout de suite, nous allons parler théâtre avec Les Amours de Pablo Picasso. C'est au studio Héberto jusqu'au 27 mai. Et je reçois pour ça Anne Marco Picasso. Bonsoir.
Bonsoir Agnès.
Vous êtes comédienne, chanteuse, autrice, oui. Marionnettiste. Vous interprétez le rôle principal hein, dans Les Amours de Pablo, avec d'ailleurs en duo un formidable pianiste. Alors c'est une création musicale dans laquelle vous nous racontez les femmes de Picasso, celles en tout cas qui l'ont inspiré, et par un habile jeu de transformation, eh bien, tour à tour, vous interprétez chacune d'elles, Fernande, Olga, Eva, Marie-Thérèse, Dora, Françoise, Jacqueline. C'est très fort, il y a beaucoup de passion, c'est une traversée intime avec beaucoup de sentiments, de vie que vous proposez et l'on découvre mieux le rapport de Pablo Picasso aux femmes. En tout cas, à ses compagnes. Alors, vous venez surtout du théâtre jeune public, Anne Marco oui. Picasso. Comment avez-vous eu l'idée d'écrire finalement, parce que vous avez écrit hein, Les Amours oui. de Pablo, comment avez-vous eu l'idée d'écrire une pièce sur Pablo Picasso?
Alors, je précise qu'effectivement, j'ai fait beaucoup de jeune public. J'ai écrit aussi pour le jeune public, mais je suis avant tout, comme toute personne d'ailleurs qui fait du jeune public, une comédienne qui avait abordé d'autres, évidemment, un autre type de public, tout public. Par la force des choses, bon, je vais pas m'étaler là-dessus. Je me suis un petit peu, on va dire, concentrée sur ce type de public. Et en 2018 à peu près, il y a plusieurs circonstances en fait. Il y a eu une petite boutade qui a été lancée. Une amie me dit. Anne, quand est-ce que tu t'écris ton seul en scène? Et je lui dis, je vais y penser. Elle me dit, je pense que tu as des choses à exprimer. Et comment tu l'appellerais? Et je lui dis comme ça, pour rire, je suis la dernière femme de Picasso. Alors évidemment, ça l'a fait rire, puisque c'est mon nom d'épouse. Ça n'est pas, je ne suis pas une héritière, une descendante de la famille. Par ailleurs, évidemment, porter un nom comme ça, ça a tout de suite, évidemment, une résonance. Voilà. Donc j'ai lancé cette boutade, et puis depuis un petit moment, je regardais un petit peu, je lisais des choses sur ces femmes qui avaient donc partagé la vie, mais qui avaient été aussi des muses, mais aussi en m'y intéressant de plus près, étaient des inspiratrices et des artistes. Donc j'ai eu envie de leur rendre hommage, et puis ce qui a vraiment déclenché mon envie de faire cela, c'est parce que je suis moi-même une, comme vous dites, une comédienne, une artiste, on va dire marionnettiste, mère aussi, et je partage ma vie avec quelqu'un qui est aussi un artiste, même s'il n'est pas plasticien. Et je me suis toujours posé la question de quelle est notre place, nous, quand on partage la vie avec un autre artiste, comment on se ferait un chemin, surtout quand on est aussi mère et voilà, et femme. Alors femme évidemment du 21e siècle, mais on est héritière de toutes ces femmes, et entre autres les femmes de Picasso, qui m'ont particulièrement intéressée, puisque en me plongeant sur la corrélation qu'il y avait entre son œuvre gigantesque, j'ai évidemment remarqué, mais je ne suis pas la seule évidemment, qu'il y avait une corrélation avec les amours et toutes les femmes qui avaient partagé sa vie. Donc ça m'a vraiment intriguée. Et puis est arrivé les 100 ans de Françoise Gillot. Donc à l'époque, on était en 2020, c'était en plein confinement, je me suis rendu compte qu'elle allait avoir 100 ans, et j'ai eu envie de lui écrire une pièce en son hommage. Et puis quelque part, j'avais envie de, un peu, c'est vrai, effacer les 100, parce que c'était l'anniversaire aussi bientôt, en 23, ça allait être l'anniversaire des 100 ans de Pablo Picasso. Et puis, j'ai écrit ma première version en 2020, et puis en 2021, 22, et elle décède en fait. Donc je me suis dit, je ne peux plus la considérer comme la survivante au sens propre des femmes de Picasso, puisque c'était la dernière vivante à ce moment-là. J'ai complètement, ça m'a un peu bouleversée, je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose. Et puis une nuit, elle est venue me visiter dans mon rêve et elle m'a dit ce n'est pas parce que je suis mort qu'il ne faut pas parler de moi. Alors j'ai remanié complètement mon texte. Alors je n'ai pas tout changé, mais j'ai changé évidemment l'introduction. J'ai parlé de ce rêve, de cette intrusion dans mon rêve. Et puis je me suis dit, c'est elle qui va me raconter son rêve. Donc ça n'est pas biographique, c'est pas un biopic type. C'est plus mon imagination, tout ce que j'ai lu, qui sont venus s'inviter dans cette pièce.
Oui, vous le disiez tout à l'heure. Donc ça, la pièce, le seul en scène, commence par un rêve hein, où vous retrouvez une des femmes de Picasso, Françoise.
Oui.
Et puis ensuite, vous allez nous défiler les autres femmes avec une transformation à chaque fois. Quelles femmes sont représentées dans le spectacle ?
Alors, j'ai pensé partir... Alors, je ne suis pas originale dans le sens où c'est sept femmes, à part peut-être Eva, dont on entend moins parler, mais ce sont quand même, en tout cas, les personnes qui s'intéressent à l'œuvre de Picasso, connaissent, par exemple, Olga, la danseuse. On parle peut-être moins de Eva, bon, qui arrive en deuxième position dans ma pièce. Enfin, je vais pas tout révéler, mais j'ai pensé que c'était important de partir de Fernande Olivier, qui est née sous un autre nom, qui s'appelait Amélie Lang, qui était une petite orpheline. Et Fernande Olivier était importante parce qu'elle a participé vraiment au début du cubisme. Elle était au Lavoir Moderne avec lui. Elle l'a rencontré à cette occasion. Et elle était poseuse pour lui, mais pas que pour lui. Et surtout, j'ai appris qu'elle dessinait et qu'elle écrivait. Donc, j'ai lu ses écrits. Voilà, ce sont des choses qu'on peut trouver d'ailleurs assez facilement. Ces carnets intimes.
Oui. Est-ce que vous vous êtes inspiré, bien sûr, des tableaux, de certains tableaux, beaucoup, hein, dans lesquels il représentait les femmes, hein,
oui,
je pense.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure que j'écrivais, c'était pas seulement une recherche, effectivement, biographique, mais c'était aussi... je me plongeais je redécouvrais ou en tout cas regardais de nouveau certains portraits et de ces portraits-là, ils venaient me parler et en fait je venais écrire. Donc il y a effectivement une part d'inspiration qui vient aussi. En fait, c'est un échange, hein, voilà, de ces portraits et à travers ces portraits, elle venait se raconter aussi.
Oui, je pense au fameux tableau La femme qui pleure,
oui,
ou encore la femme au chapeau.
Oui, la femme, oui, Dora Maar, dont on entend souvent parler de La femme qui pleure, et je pense qu'on sait que c'est Dora Maar, c'est celle qui pleure, mais évidemment il y a aussi d'autres. Il y a Olga qui était donc une danseuse, donc qui avait effectivement, peut-être certaines personnes peuvent imaginer, voilà, ce que c'est de poser quand on a été une danseuse. Voilà, il y a un certain port, il y a une grâce qui se dégage. Mais Fernande Olivier, pour le coup, pour revenir à Fernande, c'est un peu particulier parce qu'elle a participé au cubisme et donc du coup elle est très vite, elle devient l'objet d'une étude particulière. Son visage et puis ses sculptures même d'elle, son portrait d'elle est en sculpture aussi. Il y a toutes les facettes d'elle qui apparaissent en cubisme. Elle est là au moment où il fait les Demoiselles d'Avignon, par exemple. On peut presque la reconnaître dans les Demoiselles d'Avignon, d'ailleurs.
Ça a été une de ses premières muses.
Alors, il y en a eu une autre. Je pense qu'il y a eu une certaine, je ne pourrais pas dire de bêtises, de Marguerite, il me semble. Mais vraiment, elle a été vraiment la plus importante. Elle arrive au moment où il est dans sa période bleue encore. Donc, il peint les saltimbanques, les circassiens, les gens du peuple. Voilà, dans sa période un peu, on dit un peu triste. Voilà, où il peint en bleu. Et elle dit d'ailleurs... je lui fais dire, c'est le moment où tu exacerbes ta tristesse parce que tu viens de perdre un ami cher qui s'est tué pour une femme, Casagemas. Et elle va ouvrir la période rose, celle où il devient amoureux, joyeux, heureux, voilà. Et ça se ressent dans son œuvre.
Alors, on a envie de voir, on a envie de savoir comment vous avez mis en scène. Moi, je le sais, mais nos auditeurs, vous privilégiez, j'ai envie de dire, la musique. Par rapport à la peinture, puisque finalement, vous êtes seule en scène, habillée en noir, très sobre, avec juste un changement de voix et d'accessoires pour faire toutes les femmes. Et il y a donc le pianiste à vos côtés, qui est très important, qui vous accompagne, qui rend cela très intime. Finalement, la peinture est peu mise en valeur dans la mise en scène, sauf avec ces deux grands voiles transparent et avec des peintures qui représentent un espace clos.
Oui, alors il s'avère que c'est Martine Midou qui est donc la metteur en scène. Moi, je reste à ma place d'autrice et de comédienne. Mais on avait eu un accord toutes les deux. C'était que si elle souhaitait mettre... Elle a aimé mon texte, mais elle m'a tout de suite dit, Martine, ton texte, je ne peux pas l'imaginer sans musique. À savoir qu'elle vient déjà du théâtre musical. C'est une ancienne danseuse, mais aussi artiste lyrique, chanteuse lyrique. Et la musique avait une forte importance dans son travail. Et par ailleurs, moi, ça résonnait pour moi parce que je suis aussi très sensible à la musique. On s'est tout de suite dit, c'est un challenge, parce que s'attaquer aux femmes de Pablo Picasso, on nous attend, entre guillemets, au tournant, au niveau esthétique, au niveau, qu'est-ce qu'on va pouvoir indiquer esthétiquement. Alors, je me suis tournée aussi vers Sylvie Skinazi, qui est donc la scénographe et costume designer. Et pour elle, c'était aussi un challenge. Mais comme on était parti de l'idée que c'était un rêve, on ne voulait pas de quelque chose qui puisse être réaliste et qui corresponde obligatoirement à l'univers picassien, mais plus un écrin, comme vous dites, intime pour ces femmes, en fait, qui surgissent un peu comme de la mémoire. Je me souviens de Martine qui m'a dit « j'ai envie d'avoir des voiles où pourraient surgir toutes ces femmes qui reviennent d'un certain temps, d'une mémoire, de la mémoire et du rêve de Françoise ». Voilà, c'était ça qu'on voulait mettre à l'honneur. Et pour partir de la musique, au départ, on devait avoir des œuvres du extrait du répertoire du 20e. Et puis, un jour, on a fait une première rencontre avec un pianiste. Vous savez, on revient de loin. Et ce premier pianiste n'a pas pu continuer l'aventure. Et il nous a présenté Romain Vaille, qui est donc le pianiste et compositeur. Et Romain, lors d'une répétition, parce qu'on travaillait beaucoup au plateau, c'est-à-dire que mon texte, je ne dis pas était à l'arrière-plan, mais je travaillais beaucoup physiquement, je cherchais ces femmes en fait, comment les interpréter physiquement. Et à un moment donné, Martine dit à Romain, je m'ennuie, est-ce que tu pourrais improviser ? Ne sachant pas qu'il savait improviser, qu'il savait composer, et il s'est mis, comme ça a été une fulgurance, il s'est mis à improviser. Et on a compris en fait qu'il composait et que c'était toute une évidence que mes mots puissent résonner et être mis en valeur et correspondre, vraiment dialoguer avec sa musique. Donc la musique s'est faite un peu après, puis j'ai transformé mon texte au fur et à mesure. Donc ça a été une création voilà totale. Et pour finir, je pense que si on peut reprendre, ce ne sont pas les pinceaux en fait du peintre, mais c'est presque la musique qui vient en fait esquisser toutes ces femmes, on va dire, à travers moi. Voilà.
Oui, c'est ça. On fait une pause, on va écouter la Maritza de Sylvie Vartan et on reparle tout de suite des amours de Pablo au studio Hébert.
Fois IDFM Radio, 98 FM.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio. Je reçois Anne Marco Picasso. Nous continuons l'interview. Nous parlons des amours de Pablo au studio Héberto à Paris jusqu'au 27 mai. Vous parliez tout à l'heure de rêves, justement. Hein. On rencontre toutes ces femmes, ces figures, ces muses qui ont inspiré, qui ont partagé la vie de Picasso. Et vous nous en parlez dans un seul en scène accompagné du pianiste. Il y a également de la chorégraphie hein, dans le spectacle.
Oui, comme je le disais auparavant, Martine Midou, donc la metteur en scène, est une ancienne danseuse avant de se mettre à l'art lyrique. Et quand elle m'a rencontrée, parce que je faisais de l'art lyrique avec elle en conservatoire, elle a tout de suite compris mon parcours et elle a vu que j'avais fait de la danse, que j'étais une actrice qui aimait aussi travailler physiquement. Donc elle m'a dit, voilà, je souhaite qu'on travaille sur cette forme-là. Et moi, ça me correspondait complètement. Donc on a travaillé toujours le corps comme émergent. Enfin voilà, c'était un support pour moi, mais c'est du corps que partent aussi la parole, la voix de toutes les femmes.
Est-ce que vous avez, puisque vous en interprétez 7 tour à tour, est-ce que vous avez un penchant? Est-ce que vous vous sentez plus proche de l'une d'elles?
Je pense que j'ai un penchant particulièrement pour Dora Maar. C'est une personnalité très complexe, très torturée. Alors ce n'est peut-être pas seulement pour ça, mais je pense que c'est une personnalité artistique très importante. C'est celle qui a révolutionné la photographie et qui a participé, on le dit, hein, à l'œuvre carrément de Guernica. Donc je pense que j'ai une particulière attention pour elle et une admiration pour elle, pour son travail en tout cas d'artiste. Et puis j'ai beaucoup de tendresse pour Fernande qui est finie bien malheureuse en fait, et puis je le dis sans se plaindre. Bon, après c'est difficile de faire un choix, mais je crois que voilà, c'est celle qui me parle particulièrement. Et puis évidemment Françoise Gillot, qui évidemment était celle qui m'a donné envie d'écrire. Donc je mettrai Françoise Gillot en exergue et...
qui vous a inspiré. Ouais. Ce spectacle. Ouais. cette écriture. Est-ce que vous vous êtes inspiré de livres, de documents, parce que il y a eu des livres, hein,
oui,
bien sûr, des,
oui,
même des romans, beaucoup de romans, hein.
Oui, j'ai lu énormément de choses.
Vivre avec Picasso de Françoise Gillot, justement.
Oui, Vivre avec Picasso, je l'ai lu bien sûr. En fait, tous ces livres, il y a beaucoup de livres de Sophie Chauvas, j'ai lu aussi Brigitte Ben Kemoun, enfin j'en passe.
Sa vie pour Picasso de Ben Kemoun. Oui.
Voilà. J'aime beaucoup. En fait, ces femmes ont un point de vue évidemment très différent. Et moi, je ne cherche pas la vérité. On n'y était pas. C'est ce qu'on se disait avec Martine Midou, la metteur en scène. On n'était pas là. On ne sait pas véritablement ce qui s'est passé. On peut romancer, on peut extrapoler, on peut tout, mais on ne sait pas finalement. Donc, il y a un moment donné, je me suis dit, moi, je suis pas là pour faire ni l'adulation, ni un procès, ni quoi que ce soit, mais prendre la parole, et je le fais de manière fictive. J'espère. Que voilà, je leur rends hommage dans le mieux que je puisse, mais il n'y a pas de, et C'est marrant parce qu'à un moment donné, je dis Jacqueline, je l'ai appelée La Vérité, parce qu'en fait, il y a eu un livre sur elle qui s'appelait La Vérité, d'une autrice, excusez-moi, j'ai oublié son nom, mais elle me dit, on dit que Jacqueline souhaitait dire la vérité, mais je ne sais pas ce qu'est la vérité, enfin d'ailleurs personne ne le sait. Et puis vous savez, tout ce qui s'est passé ces derniers temps sur tout ce, le mouvement hashtag MeToo, et c'est tout à fait normal, évidemment ça remue beaucoup de choses, et moi je souhaitais le redire, je suis venue prendre la parole, mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Alors maintenant, après, on en ressent, on en dégage ce qu'on souhaite de, en voyant la pièce.
C'est voilà. Ça, merci beaucoup Anne Marco Picasso de nous avoir parlé de cette pièce, création musicale et théâtrale, hein, Les Amours de Pablo, et c'est donc au studio Héberto jusqu'au 27 mai, le lundi et le mercredi à 21h. Et on cite peut-être, on cite votre équipe.
Oui, bien sûr.
Le pianiste.
Alors le pianiste, donc c'est Romain Vaille, voilà, qui est donc pianiste et compositeur. Martine Midou est la metteur en scène. Et puis nous avons aussi Sylvie Skinazi, pardon, qui s'occupe de la scénographie et qui est aussi costume designer, même si elle a fait quelque chose de très sobre, comme vous dites, avec les accessoires. Et nous avons aussi notre créatrice lumière qui reste un petit peu frustrée parce que c'est pas évident de faire une création lumière dans un endroit où on doit tous les jours changer. Chaque soir, il y a une création lumière différente. Et c'est Frédéric Steiner-Sarieux. Voilà, j'étais accompagnée aussi par Alain Le Breton à la communication.
Voilà, merci beaucoup, Anne.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime, votre émission touche à sa fin, chers auditeurs, mais je voulais quand même vous faire part de mes coups de cœur théâtre, toujours au studio Héberto, puisque nous venons de parler d'une pièce des Amours de Pablo. Eh bien, il y a également dans ce théâtre la sœur de Shakespeare. Et oui, d'après Virginia Woolf, alors là c'est le samedi à 16h30, le dimanche à 19h, c'est une pièce littéraire, c'est on apprend plein de choses. C'est très vivant, il y a deux comédiennes, on se pose la question, Shakespeare a-t-il eu une sœur? Et si oui, aurait-elle pu écrire des tragédies, des pièces, des œuvres littéraires? Est-ce qu'elle en aurait eu les moyens? Donc Virginia Woolf, en effet, pose cette question dans un livre d'ailleurs qui est « Chambre à soi ». Une chambre à soi, où Virginia Woolf a parlé des conditions nécessaires pour qu'une femme puisse écrire, c'est avoir une chambre et de l'argent. Donc le spectacle est un peu, j'allais dire, un face-à-face entre Virginia Woolf et cette sœur imaginée de Shakespeare qu'elle appelle Judith, mais qui n'a pas existé. Il y a du chant, du mime, de la danse, et la pièce explore donc les conditions de création et d'écriture des femmes artistes. C'est jusqu'au 31 mai au studio Héberto, le samedi et le dimanche. Autre coup de cœur, alors là on va dire plus sérieux, plus russe, c'est Crime et Châtiment dans ce petit bijou qu'est le théâtre de la Huchette, c'est jusqu'au 13 juin. Donc chef-d'œuvre hein, de Dostoïevski, Crime et Châtiment, on retrouve l'âme russe du 19e siècle, la question du bien, du mal, de la justice, les conséquences des actions. Ça c'est très russe hein, l'espoir de la rédemption. C'est une prouesse de jouer dans ce petit écrin, je viens de le dire, qui est vraiment minuscule. Il y a des changements de costumes, des chansons a cappella, des changements en un clin d'œil de coiffure, d'accessoires, trois comédiens. Donc en gros, il y a le jeune Radion Raskolnikov, un étudiant de 23 ans, tout en fougue, en questionnement, qui a commis un acte. Ensuite, il y a le commissaire qui est très poignant face à lui, qui mène l'enquête. Sa conviction est quasiment faite. Roskanilkov est le coupable. Et voilà, on va se poser la question, pourquoi cet étudiant de 23 ans a agi de la sorte ? Nul n'est au-dessus de la loi. Ça c'est bien russe aussi. Le jeune étudiant n'est plus très sûr du crime qu'il a commis. Donc le spectacle nous transporte dans sa tête, dans la tête de ce jeune. Donc 3 comédiens, une merveille de littérature d'1h20, très belle scénographie, lumière, musique, chanson. Et la mise en scène est de Dominique Cheer-Asman. Et c'est très musical, attention, ça je l'ai peut-être pas dit, mais la musique a vraiment une place centrale. Voilà, chers auditeurs, vendredi prochain, vous retrouverez Marie-Laure d'ici là. Je vous souhaite une très belle soirée.